versets 1 à 11. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. C'est ça ? Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts.
Merci. Alors, lors de son voyage inaugural, donc j'espère que vous voyez, malheureusement, il fait beau. Ce soleil est regrettable. Mais donc, lors de son voyage inaugural, le 14 avril 1912, à 23h40, le paquebot transatlantique Titanic heurte un iceberg. Et en moins de 2 heures, il sombre dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Alors, ce paquebot avait pourtant une réputation, celle d'une grande fiabilité. C'était un bateau flambant neuf, un bateau moderne. Il faisait 256 mètres de long, 82 mètres de large, 56 mètres de hauteur. Non, 52 mètres, pardon, de hauteur. N'exagérons rien. Il était quand même le fleuron de l'industrie navale britannique. Et les passagers avaient confiance. Les passagers avaient confiance dans ce navire, confiance dans sa technologie de pointe, dans cette formidable réalisation humaine. Mais ils ne savaient pas que la tôle et les rivets étaient de mauvaise qualité. De la même manière, les passagers avaient confiance en ceux qui manœuvraient le bateau. Mais ils ne savaient pas que ces derniers feraient preuve d'insouciance et même de désinvolture, adoptant un parcours risqué et surtout une vitesse excessive. Les passagers ont fait confiance et cela leur a coûté la vie. 1500 morts. Alors ce matin, on va se poser la question, en qui placer sa confiance ? En qui placer sa confiance ? Alors c'est à cette question que l'apôtre Paul répond dans le texte de ce matin, et sa réponse ne se fait pas attendre. Dès le début, l'apôtre nous place devant un choix. Soit nous plaçons notre confiance en nous-mêmes, faisant ainsi le mauvais choix, soit nous plaçons notre confiance en Dieu, faisant ainsi le bon choix. Alors voilà pour le choix, et avant de l'examiner en détail, il nous faut en préciser les enjeux. Qu'est-ce qui se cache derrière ce choix ? Me confier en moi ou me confier en Dieu, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, tout. L'enjeu est colossal. Il est tout aussi vital que lors du naufrage du Titanic. Et même, il va au-delà, car il va au-delà de cette vie-ci. L'enjeu, c'est le salut. L'enjeu, c'est la vie éternelle. C'est pour cela que Paul utilise des termes peu habituels pour débuter ce passage. Verset 1, je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses. » En fait, Paul a conscience de rabâcher. Paul a conscience d'insister lourdement. Mais pourquoi ? Eh bien parce que cela contribue à votre sécurité, nous dit-il. Il s'agit en fait de protéger les Philippiens d'un grave danger. Car des personnes tentent de détourner les chrétiens de Philippe du véritable évangile. Il les met donc solennellement en garde, et nous avec eux. Attention en qui vous placez votre confiance. Il en va de votre salut. Alors, ce matin, je vous propose une réflexion en deux temps. D'abord, nous verrons que la fausse sécurité, la fausse assurance, consiste à se confier en nous-mêmes, versets 2 à 6, avant de voir que la véritable assurance consiste à se confier en Christ, versets 7 à 11. Alors d'abord, versets 2 à 6, la fausse assurance se confie en soi-même. Et je vous propose de voir d'abord ce qu'il faut entendre par se confier en soi-même, versets 2 et 3. Puis nous verrons les différents types de fausses assurances qui peuvent exister, versets 4 à 6. Et enfin, nous essaierons d'en tirer des applications pour nous. Alors, que signifie se confier en soi-même, versets 2 à 3 ? Alors disons-le tout de suite, évidemment, l'apôtre Paul ne nous demande pas d'abandonner toute confiance en nous-mêmes. Il ne nous demande pas de devenir des êtres craintifs, névrosés, infantiles. Non, ne perdons pas de vue le contexte. Nous parlons ici de la recherche du salut. Comment un homme peut-il être sauvé ? Peut-il l'être par ses propres forces ou non ? Alors relisons les versets 2 et 3. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Alors, nous avons commencé à l'évoquer, mais Paul se trouve confronté à des faux docteurs. Et comme toujours dans ces cas-là, il ne fait pas dans la dentelle. Il utilise des termes très durs. Faites attention aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis. On pourrait traduire par aux mutilés. Alors, il faut dire que l'apôtre Paul a déjà eu affaire à eux, par exemple en Galatie. Pour ces faux docteurs, la foi n'était pas suffisante pour être sauvé. La foi en Christ, c'était bien, mais il fallait la compléter par la pratique de la loi et notamment par la circoncision. Alors très clairement, Paul rejette avec fermeté cette conception. Verset 3, « Ne mettons pas notre confiance dans notre condition. » Face à Dieu, nous ne pouvons rien faire valoir pour mériter quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre condition, c'est-à-dire sur toute notre existence humaine extérieure. Nos origines, nos rites, même nos actions et nos œuvres, cela ne vaut rien face aux exigences du Dieu saint. Et s'appuyer sur sa condition revient à s'appuyer sur soi-même. C'est croire que par nos propres forces, nous pouvons obtenir la faveur de Dieu. Croire que nos efforts nous feront gagner notre salut. En fait, c'est entrer dans une logique de donnant-donnant avec Dieu. Et c'est surtout croire que l'on peut traiter d'égal à égal avec Dieu. Exiger de sa part un dû. Un peu comme un salarié qui, à la fin du mois, vient exiger son chèque. Le problème, c'est que face à Dieu, nous n'avons pas ce statut de salarié. Imaginez plutôt un condamné à mort qui viendrait exiger sa remise en liberté pour avoir bien rangé sa cellule le matin. Ce serait absurde. Eh bien, notre statut d'homme pécheur face au Dieu saint ne nous permet pas de mériter quoi que ce soit. Ne mettez pas votre confiance en vous-même, nous dit Paul. Et en fait, Paul sait très bien de quoi il parle, parce que pendant de longues années, Paul a tenté de se forger sa propre justice. Et c'est ce qu'il nous rappelle dans les versets 4 à 6, avant sa conversion, l'apôtre fondait sa vie sur de fausses assurances. Alors, quelles sont ces fausses assurances ? Versets 4 et 6, « Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. » Paul se souvient de sa vie avant de rencontrer Christ, et il était un homme très pieux. Il était même persuadé d'être bien vu par Dieu. Mais sa vie reposait sur de fausses assurances. Il se croyait juste au regard de ses rites, d'abord. Il avait été circoncis dès le huitième jour, comme le demandait la loi. Il se croyait juste aussi au regard de ses origines. Paul était israélite de naissance, il connaissait même sa tribu, Benjamin, pas n'importe quelle tribu, celle dont était issu le premier roi de l'histoire d'Israël. D'ailleurs, Paul portait le nom de ce roi. Son véritable nom était Saül de Tarse. Paul se confiait aussi dans sa religiosité. Il appartenait au parti juif le plus strict, les pharisiens. Le terme pharisien signifiait séparé, à part, pur. Mais surtout, Paul excellait dans les œuvres. Il avait toujours appliqué sa vie à faire la volonté de Dieu, à respecter scrupuleusement la loi de Dieu, au point d'être irréprochable quant aux exigences extérieures de la loi. Ses rites, ses origines, sa religiosité, ses œuvres, tout cela conférait à Paul une place de choix au sein de sa communauté. Tout cela lui valait la faveur des autres, mais pas celle de Dieu. Alors, quelles applications pour nous ? Qu'en est-il de nous ? Quelle place donnons-nous à nos rites dans notre rapport à Dieu ? Le fait d'être baptisé, le fait de prendre la Sainte Cène, aller voir le prêtre pour se confesser et recevoir l'absolution, ce sont des rites qui ne rendent pas plus présentables devant Dieu. Quelle place donnons-nous à nos origines dans notre rapport à Dieu ? Avoir baigné dans une culture judéo-chrétienne, être né dans une famille protestante, avoir grandi dans les milieux évangéliques, ce n'est pas suffisant pour être en règle avec Dieu. Quelle place donnons-nous à la religiosité dans nos vies ? Aller au culte le dimanche matin, lire sa Bible, donner la dîme, prêcher, c'est très bien. C'est très bien. Mais ça ne nous rend pas juste face à Dieu. Nous avons tous tendance à placer notre confiance dans les œuvres, et je pense que même ceux qui ne croient pas en Dieu ont cette tendance. Souvent, ils se plaisent à penser que si Dieu existait, eh bien, ils ne risqueraient rien de son jugement, parce qu'ils n'ont tué personne, parce qu'ils n'ont pas trompé leur femme, parce qu'ils donnent de l'argent à Médecins sans frontières, ou parce qu'ils pensent écolo. Si Dieu existe, il doit forcément les apprécier, car ce sont des gens bien. Alors, dans le film « Cette vie », je ne sais pas si beaucoup connaissent, mais en tout cas, le film « Cette vie » nous présente un homme qui est rongé par la culpabilité. Le héros, Tim Thomas, qui est joué par Will Smith, a commis une faute qui a coûté la vie à 7 personnes. Et pour échapper à la culpabilité, il décide de réparer lui-même sa faute, ou plutôt de la compenser en sauvant 7 autres personnes. Il veut se racheter par ses propres forces et même en sacrifiant son propre corps. Et Dieu est totalement absent de ce film. Cet homme est seul face à sa culpabilité. et il se confie dans ses œuvres pour tenter d'y échapper. Alors le résultat, c'est qu'il réussit à sauver cette personne, ou plutôt à prolonger en tout cas la vie de cette personne. Mais il le fait au prix d'une huitième mort, la sienne. Alors, toute proportion gardée, je pense que nous avons tous cette tendance. Vouloir nous appuyer sur nous-mêmes plutôt que sur Dieu, vouloir nous confier en nous-mêmes. Mais cette voie conduit à une impasse. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver, car la véritable assurance consiste à se confier en Christ. Et c'est notre seconde partie. La véritable assurance, se confier en Christ. Alors, la parole nous invite à placer notre confiance en Christ. Mais concrètement, ça signifie quoi, se confier en Christ? Dans le texte de ce matin, on voit clairement que se confier en Christ signifie trois choses. D'abord, renoncer à nos anciennes sécurités, versets 7 et 8. Ensuite, recevoir la justice qui vient de Dieu, verset 9. Et enfin, connaître Christ, versets 10 et 11. Alors, se confier en Christ, c'est renoncer à nos anciennes sécurités, versets 7 et 8. Je relis ces versets. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême, qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. Paul continue son témoignage. Et il nous explique le changement radical qui est intervenu dans sa vie. Sa conversion a complètement bouleversé sa manière de voir et de vivre. Et ce qui frappe, c'est la force des termes employés. Ce qui constituait sa vie d'avant, ses œuvres, sa religiosité, eh bien, tout cela est devenu une perte, nous dit-il, et même pour lui, désormais, ce sont des ordures. En fait, une traduction plus littérale renvoie à des excréments. Alors, les propos de Paul sont radicaux. Mais ils ne sont rien par rapport à la radicalité du changement vécu dans sa vie. En découvrant le Christ, Paul a compris qu'il avait fait fausse route. Il avait accumulé des trésors qui n'en étaient pas, des valeurs qui n'en sont qu'aux yeux des hommes, mais qui ne comptent pas à la banque du Seigneur. Et ce passage nous rappelle ce que nous avons lu au chapitre 2 de cette même épître. Souvenez-vous des versets 6 à 11 du chapitre 2 où il était question du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, lui aussi, s'est dépouillé. Il a renoncé à son statut et il a été jusqu'à la croix. Eh bien, nous voyons ici que le destin de l'apôtre se confond avec celui de son Seigneur. Paul a accepté de renoncer à tout ce qui faisait sa fierté et même de connaître la souffrance, celle de l'emprisonnement et pour finir du martyre. Eh bien, se confier en Christ passe par cette étape du renoncement. Alors, les formes de renoncement peuvent être multiples. Ça peut être renoncer à certains plaisirs, renoncer à certains avantages, renoncer peut-être à certaines personnes, ou renoncer à une réussite sociale, une carrière. Dans les années 20, un jeune Britannique a défrayé la chronique. Il s'appelait Eric Liddell. Voici une photo de lui. Et c'est son histoire que relate le film Les Chariots de Feu. À l'âge de 22 ans, Eric Liddell devint un athlète de dimension internationale. Et il courut aux Jeux Olympiques de 1924, juste ici à Colombes. Et il remporta la médaille d'or du 400 mètres. C'était la gloire, la gloire. Pourtant, l'année suivante, il a renoncé à cette carrière sportive très prometteuse et il est parti en Chine pour devenir missionnaire. Et 12 ans plus tard, il est mort dans un camp d'internement japonais en 1945. Se confier en Christ, c'est savoir renoncer. Renoncer à ce qui faisait notre vie sans Christ, renoncer à notre ancien système de valeurs et renoncer à se confier en nous-mêmes. Se confier en Christ, c'est ensuite recevoir la justice qui vient de Dieu, verset 9. Alors, si l'homme ne peut se rendre juste aux yeux de Dieu, ça veut dire que la décision d'acquittement ne peut venir que du Seigneur. Et cet acquittement ne peut se faire que par le moyen choisi par lui. Relisons le verset 9. Être trouvé en lui, en Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Alors on peut difficilement être plus clair. La justice ne se gagne pas, elle se reçoit. Et elle se reçoit en croyant en Christ. Se confier dans sa propre justice ne sert à rien. Pour être juste, il faut que Dieu lui-même nous déclare juste. Et le seul moyen pour cela, c'est d'être trouvé en Christ, nous dit Paul. Être trouvé en Christ. L'expression suggère l'idée de s'envelopper du Christ. Comme si on enveloppait un manteau de justice. Alors bon, malheureusement, il fait beau, il fait chaud. Je suis désolé, j'en veux à la météo actuellement. Mais souvenez-vous de l'hiver, lorsqu'il faisait froid. Vous savez, on sort du lit, on n'est pas très heureux de sortir du lit tout chaud, là. On va dans le froid, et puis il y a pire, il y a le moment de la douche. Et on sort de la douche, et là, il fait encore plus froid. Mais heureusement, il y a le peignoir qui était sur le radiateur, et on s'enveloppe de ce peignoir. Eh bien, il y a un peu de ça ici. Un peu. Gagner le Christ, c'est simplement le revêtir. C'est être couvert de sa justice, de son innocence. C'est être enveloppé dans son salut. Et comment peut-on revêtir ce manteau de justice ? Eh bien, par la foi en Christ. La justice est offerte et elle se reçoit, se saisit par la foi. Il suffit de croire. C'est donc en Christ et uniquement en lui que l'on doit se confier. Mais se confier en Christ, c'est enfin connaître Christ. Versets 10 et 11. Je les relis. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Connaître Christ. Alors Paul a déjà mentionné cette nécessité au verset 8 et il y revient. Mais que signifie connaître Christ ? Alors disons-le tout de suite, il ne s'agit pas simplement d'avoir des connaissances à propos de Christ, comme n'importe quel historien des religions. Non, il s'agit de connaître Christ, c'est-à-dire d'avoir une relation personnelle avec lui. C'est l'expérience qui consiste à être aimé par Christ, mais aussi à l'aimer en retour. Se confier en Christ, c'est entrer dans cette relation personnelle avec lui. Ça débute à la conversion, mais ça dure toute la vie. Connaître Christ, c'est être en communion avec lui, c'est-à-dire suivre ses traces, adopter sa manière de penser, vivre sa vie. Et là, par contre, les œuvres ont toute leur place. Si les œuvres ne servent à rien pour mériter notre salut, par contre, elles prouveront que nous connaissons Christ et que nous vivons des vies qui cherchent à se conformer à l'image de celle de notre Seigneur. C'est donc aussi connaître la communion de ses souffrances, car le Christ a souffert. Se confier en Christ, ce n'est pas signer pour une vie en rose. Suivre les traces du Christ peut mener même jusqu'à la mort. Ce sera le cas pour Paul. Cependant, la souffrance n'aura pas le dernier mot. Connaître Christ signifie finalement parvenir à la résurrection des morts, c'est-à-dire goûter et savourer pleinement ce salut offert. Alors, il nous faut conclure. En qui placer sa confiance? Eh bien, Paul nous répond, en Christ seul. Et ce passage de l'Épître aux Philippiens est vraiment formidable, parce qu'il est libérateur. Libérateur. Nous avons là le cœur de l'Évangile. Et l'on comprend pourquoi Évangile signifie bonne nouvelle. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si Paul débute ce passage en déclarant « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. » Quel bonheur de pouvoir se confier en Dieu. Quel bonheur de ne plus devoir mériter son salut. Quel bonheur de recevoir par la foi ce salut gratuit de Dieu. Tous les hommes et les femmes courent après le bonheur. Mais le secret du bonheur, le voici. Placer sa confiance en Christ. En renonçant à notre vie sans lui, en acceptant de revêtir la justice qu'il nous donne, et en vivant désormais des vies qui cherchent à lui ressembler. Je terminerai par la prière. Seigneur, ce qui nous était cher pour construire notre vie, utile et précieux selon ce monde, ce qui nous était gain n'a plus de valeur, ne nous sert à rien. Notre plus cher désir, Seigneur, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de ta justice. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Car nous préférons te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, notre Dieu, notre seul bien, notre vraie joie et notre justice. Ô Seigneur, nous t'aimons. Amen.